Nana, chapitre 6. Le comte Muffa, accompagné de sa femme et de sa fille, était arrivé de la veille aux Fondettes, où madame Hugon, qui s'y trouvait seule avec son fils Georges, les avait invités à venir passer 8 jours. La maison, bâtie vers la fin du XVIIe siècle, s'élevait au milieu d'un immense enclos carré, sans un ornement. Mais le jardin avait des ombrages magnifiques, une suite de bassins aux eaux courantes alimentés par des sources. C'était, le long de la route d'Orléans à Paris, comme un flot de verdure, un bouquet d'arbres, rompant la monotonie de ce pays plat, où des cultures se déroulaient à l'infini. À 11 heures, lorsque le second coup de cloche pour le déjeuner eut réuni tout le monde, madame Hugon, avec son bon sourire maternel, posa 2 gros baisers sur les joues de Sabine, en disant « Tu sais, à la campagne, c'est mon habitude. Ça me rajeunit de 20 ans de te voir ici. As-tu bien dormi dans ton ancienne chambre ?» Puis, sans attendre la réponse, se tournant vers Estelle, « Et cette petite n'a fait qu'un somme, elle aussi. Embrasse-moi, mon enfant. » On s'était assis dans la vaste salle à manger, dont les fenêtres donnaient sur le parc. Mais on occupait un bout seulement de la grande table où l'on se serrait pour être plus ensemble. Sabine, très gaie, rappelait ses souvenirs de jeunesse qui venaient d'être éveillés. Des mois passés aux Fondettes, de longues promenades, une chute dans un bassin par un soir d'été, un vieux roman de chevalerie découvert sur une armoire et lu en hiver devant un feu de sarment. Et Georges, qui n'avait pas revu la comtesse depuis quelques mois, la trouvait drôle, avec quelque chose de changé dans la figure. Tandis que cette perche d'Estelle, au contraire, semblait plus effacée encore, muette et gauche. Comme on mangeait des œufs à la coque et des côtelettes, très simplement, madame Hugon se lamenta en femme de ménage, racontant que les bouchées devenaient impossibles. Elle prenait tout à Orléans. On ne lui apportait jamais les morceaux qu'elle demandait. D'ailleurs, si ses hôtes mangeaient mal, c'était leur faute. Ils venaient trop tard dans la saison. « Ça n'a pas de sens, » dit-elle. « Je vous attends depuis le mois de juin, et nous sommes à la mi-septembre. Aussi, vous voyez, ce n'est pas joli. » D'un geste, elle montrait les arbres de la pelouse qui commençaient à jaunir. Le temps était couvert, une vapeur bleuâtre noyait les lointains, dans une douceur et une paix mélancolique. « Oh, j'attends du monde !» continua-t-elle. « Ce sera plus gai. D'abord, 2 messieurs que Georges a invités, Monsieur Fauchery et Monsieur Daguenet. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Puis Monsieur de Vandœuvre, qui me promet depuis 5 ans. Cette année, il se décidera peut-être. « Ah, bien !» dit la comtesse en riant. « Si nous n'avons que Monsieur de Vandœuvre, il est trop occupé. »« Et Philippe ?» demanda Muffa. « Philippe a demandé un congé, » répondit la vieille dame. « Mais vous ne serez sans doute plus aux Fondettes quand il arrivera. » On servait le café. La conversation était tombée sur Paris, et le nom de Stenner fut prononcé. Ce nom arracha un léger cri à madame Hugon. « À propos !» dit-elle. « Monsieur Stenner, c'est bien ce gros monsieur que j'ai rencontré un soir chez vous, un banquier, n'est-ce pas ? En voilà un vilain homme ! Est-ce qu'il n'a pas acheté une propriété pour une actrice, à 1 heure d'ici, là-bas, derrière la Choue, du côté de Gumière ? Tout le pays est scandalisé. Saviez-vous cela, mon ami ? Pas du tout, répondit Muffa. Ah ! « Stenner a acheté une campagne dans les environs ?» Georges, en entendant sa mère aborder ce sujet, avait baissé le nez dans sa tasse. Mais il le releva et regarda le comte, étonné de sa réponse. « Pourquoi mentait-il si carrément ? De son côté, le comte, ayant remarqué le mouvement du jeune homme, lui jeta un coup d'œil de défiance. Madame Hugon continuait à donner des détails. La campagne s'appelait la Mignotte. Il fallait remonter la Choue jusqu'à Gumières pour traverser sur un pont, ce qui allongeait le chemin de 2 bons kilomètres. Autrement, on se mouillait les pieds et on risquait un plongeon. « Et comment se nomme l'actrice ?» demanda la comtesse. « Ah, on me l'a dit pourtant, » murmura la vieille dame. « Georges, tu étais là ce matin quand le jardinier nous a parlé. » Georges eut l'air de fouiller sa mémoire. Muffa attendait en faisant tourner une petite cuillère entre ses doigts. Alors la comtesse s'adressant à ce dernier, « Est-ce que M. Stenner n'est pas avec cette chanteuse des variétés, cette Nana ?»«
Nana, c'est bien ça, une horreur !» cria Madame Hugon qui se fâchait.
« Et on l'attend à la Mignotte. Moi, je sais tout par le jardinier. N'est-ce pas, Georges ? Le jardinier disait qu'on l'attendait ce soir. »
Le comte eut un léger tressaillement de surprise. Mais Georges répondait avec vivacité.
« Oh, maman, le jardinier parlait sans savoir. Tout à l'heure, le cocher disait le contraire. On n'attend personne à la Mignotte avant après-demain. »
Il tâchait de prendre un air naturel en étudiant du coin de l'œil l'effet de ses paroles sur le comte. Celui-ci tournait de nouveau sa petite cuillère comme rassuré. La comtesse, les yeux perdus sur les lointains bleuâtres du parc, semblait n'être plus à la conversation, suivant avec l'ombre d'un sourire une pensée secrète, éveillée subitement en elle. Tandis que, raide sur sa chaise, Estelle avait écouté ce qu'on disait de Nana, sans qu'un trait de son blanc visage de vierge eût bougé.
« Mon Dieu !» murmura après un silence Madame Hugon, retrouvant sa bonhomie. « J'ai tort de me fâcher. Il faut bien que tout le monde vive. » Si nous rencontrons cette dame sur la route, nous en serons quittes pour ne pas la saluer. » Et comme on quittait la table, elle gronda encore la comtesse Sabine de s'être tant fait désirer cette année-là. Mais la comtesse se défendait, rejetait leur retard sur son mari. 2 fois, à la veille de partir, les malles fermées, il avait donné contre-ordre en parlant d'affaires urgentes. Puis il s'était décidé tout d'un coup, au moment où le voyage semblait enterré. Alors, la vieille dame raconta que Georges lui avait de même annoncé son arrivée à 2 reprises, sans paraître, et qu'il était tombé l'avant-veille au fond d'être lorsqu'elle ne comptait plus sur lui. On venait de descendre au jardin. Les 2 hommes, à droite et à gauche de ces dames, les écoutaient, silencieux, faisant le gros dos.
« N'importe !» dit Madame Hugon en mettant des baisers sur les cheveux blonds de son fils. « Zizi est bien gentil d'être venu s'enfermer à la campagne avec sa mère. Ce bon Zizi, il ne m'oublie pas. »
L'après-midi, elle éprouva une inquiétude. Georges, qui tout de suite au sortir de table s'était plaint d'une lourdeur de tête, parut peu à peu envahi par une migraine atroce. Vers 4 heures, il voulut monter se coucher. C'était le seul remède. Quand il aurait dormi jusqu'au lendemain, il se porterait parfaitement. Sa mère tint à le mettre au lit elle-même. Mais comme elle sortait, il sauta donner un tour à la serrure. Il prétexta qu'il s'enfermait pour qu'on ne vînt pas le déranger. Et il criait « Bonsoir, à demain, petite mère !» d'une voix de caresse, tout en promettant de ne faire qu'un somme. Il ne se recoucha pas. Le teint clair, les yeux vifs, se rhabillant sans bruit, puis attendant, immobile sur une chaise. Quand on sonna le dîner, il guetta le comte Muffa, qui se dirigeait vers le salon. 10 minutes plus tard, certain de n'être pas vu, il alla lestement par la fenêtre en s'aidant d'un tuyau de descente. Sa chambre, située au 1er étage, donnait sur le derrière de la maison. Il s'était jeté dans un massif. Il sortit du parc et galopa à travers champs du côté de la Choue, le ventre vide, le cœur sautant d'émotion. La nuit venait, une petite pluie fine commençait à tomber.
C'était bien le soir que Nana devait arriver à la mignotte. Depuis que Stenner lui avait, au mois de mai, acheté cette maison de campagne, elle était prise de temps à autre d'une telle envie de s'y installer qu'elle en pleurait. Mais chaque fois, Bordenave refusait le moindre congé, la renvoyait à septembre, sous prétexte qu'il n'entendait pas la remplacer par une doublure, même pour un soir, en temps d'exposition. Vers la fin d'août, il parla d'octobre. Nana, furieuse, déclara qu'elle serait à la mignotte le 15 septembre. Même pour braver Bordenave, elle invitait en sa présence un tas de gens. Une après-midi, comme Muffa, à qui elle résistait savamment, la suppliait chez elle, secouée de frissons, elle promit enfin d'être gentille, mais là-bas. Et à lui aussi, elle indiqua le 15. Puis, le 12, un besoin la prit de filer tout de suite, seule avec Zoé. Peut-être Bordenave, prévenu, allait-il trouver un moyen de la retenir. Cela l'égayait de le planter là, en lui envoyant un bulletin de son docteur. Quand l'idée d'arriver la première à la mignotte, d'y vivre 2 jours sans que personne le sût, fut entrée dans sa cervelle, elle bouscula Zoé pour les mâles, la poussa dans un fiacre où, très attendrie, elle lui demanda pardon en l'embrassant. Ce fut seulement au buffet de la gare qu'elle songea à prévenir Stenner par une lettre. Elle le priait d'attendre le surlendemain pour la rejoindre, s'il voulait la retrouver bien fraîche. Et, sautant à un autre projet, elle fit une seconde lettre, où elle suppliait sa tante d'amener immédiatement le petit Louis. Ça ferait tant de bien à bébé. Et comment s'amuserait ensemble sous les arbres? De Paris à Orléans, en wagon, elle ne parla que de ça, les yeux humides, mêlant les fleurs, les oiseaux et son enfant dans une soudaine crise de maternité. La mignotte se trouvait à plus de 3 lieues. Nana perdit 1 heure pour louer une voiture, une immense calèche délabrée qui roulait lentement avec un bruit de ferraille. Elle s'était tout de suite emparée du cocher, un petit vieux taciturne qu'elle accablait de questions. Est-ce qu'il avait souvent passé devant la mignotte? Alors, c'était derrière ce coteau. Ça devait être plein d'arbres, n'est-ce pas? Et la maison, se voyait-elle de loin? Le petit vieux répondait par des grognements. Dans la calèche, Nana dansait d'impatience, tandis que Zoé, fâchée d'avoir quitté Paris si vite, se tenait raide et maussade. Le cheval s'étant arrêté court, la jeune femme crut qu'on arrivait. Elle passa la tête par la portière, elle demanda « Hein, nous y sommes ?» Pour toute réponse, le cocher avait fouetté le cheval qui monta péniblement une côte. Nana contemplait avec ravissement la plaine immense sous le ciel gris, où de gros nuages s'amoncelaient. « Oh, regarde donc, Zoé, en voilà de l'herbe. Est-ce que c'est du blé, tout ça ? Mon Dieu, que c'est joli ! On voit bien que madame n'est pas de la campagne. » finit par dire la bonne d'un air pincé. Moi, je l'ai trop connue, la campagne, quand j'étais chez mon dentiste, qui avait une maison à Bougival. Avec ça, il fait froid ce soir. C'est humide par ici. On passait sous des arbres. Nana flairait l'odeur des feuilles, comme un jeune chien. Brusquement, à un détour de la route, elle aperçut le coin d'une habitation, dans les branches. C'était peut-être là. Et elle entama une conversation avec le cocher, qui disait toujours non d'un branlement de tête. Puis, comme on descendait l'autre pente du coteau, il se contenta d'allonger son fouet en murmurant « Tenez, là-bas ». Elle se leva, passa le corps entier par la portière. « Où donc? Où donc ?» criait-elle, pâle, ne voyant rien encore. Enfin, elle distingua un bout de mur. Alors, ce furent de petits cris, de petits sauts, tout un emportement de femme débordé par une émotion vive. « Zoé, je vois, je vois. Mets-toi de l'autre côté. Oh, il y a sur le toit une terrasse avec des briques. C'est une serre là-bas. Mais c'est très vaste. Oh, que je suis contente. Regarde donc, Zoé, regarde donc. » La voiture s'était arrêtée devant la grille. une petite porte s'ouvrit, et le jardinier, un grand sec, parut, sa casquette à la main. Nana voulut retrouver sa dignité, car le cocher déjà semblait rire en dedans, avec ses lèvres cousues. Elle se retint pour ne pas courir, écouta le jardinier, très bavard celui-là, qui priait madame d'excuser le désordre, attendu qu'il avait seulement reçu la lettre de madame le matin. Mais malgré ses efforts, elle était enlevée de terre, elle marchait si vite que Zoé ne pouvait la suivre. Au bout de l'allée, elle s'arrêta un instant pour embrasser la maison d'un coup d'œil. C'était un grand pavillon de style italien, flanqué d'une autre construction plus petite qu'un riche Anglais avait fait bâtir après 2 ans de séjour à Naples et dont il s'était dégoûté tout de suite. « Je vais faire visiter à madame, » dit le jardinier. Mais elle l'avait devancé. Elle lui criait de ne pas se déranger, qu'elle visiterait elle-même, qu'elle aimait mieux ça. Et sans ôter son chapeau, elle se lança dans les pièces, appelant Zoé, lui jetant des réflexions d'un bout à l'autre des couloirs, emplissant de ses cris et de ses rires le vide de cette maison inhabitée depuis de longs mois. D'abord le vestibule. Un peu humide, mais ça ne faisait rien, on n'y couchait pas. Très chic, le salon, avec ses fenêtres ouvertes sur une pelouse. Seulement, le meuble rouge était affreux, elle changerait ça. Quant à la salle à manger, hein, la belle salle à manger, et quelle noce on donnerait à Paris si l'on avait une salle à manger de cette taille. Comme elle montait au premier étage, elle se souvint qu'elle n'avait pas vu la cuisine. Elle redescendit en s'exclamant « Zoé dut s'émerveiller sur la beauté de l'évier et sur la grandeur de l'âtre, où l'on aurait fait rôtir un mouton. » Lorsqu'elle fut remontée, sa chambre surtout l'enthousiasma. Une chambre qu'un tapissier d'Orléans avait tendue de cretonne Louis XVI, rose tendre. Ah bien, on devait joliment dormir là-dedans. Un vrai nid de pensionnaire. Ensuite, 4 ou 5 chambres d'amis, puis des greniers magnifiques. C'était très commode pour les mâles. Zoé, rechignant, jetant un coup d'œil froid dans chaque pièce, s'attardait derrière madame. Elle la regarda disparaître en haut de l'échelle raide des greniers. Merci, elle n'avait pas envie de se casser les jambes. Mais une voix lui arriva, lointaine, comme soufflée dans un tuyau de cheminée. « Zoé, Zoé, où es-tu? Monte donc! Oh, tu n'as pas idée! C'est féerique !» Zoé monta en grognant. Elle trouva madame sur le toit, s'appuyant à la rampe de briques, regardant le vallon qui s'élargissait au loin. L'horizon était immense, mais des vapeurs grises le noyaient. Un vent terrible chassait de fines gouttes de pluie. Nana devait tenir son chapeau à 2 mains pour qu'il ne fût pas enlevé, tandis que ses jupes flottaient avec des claquements de drapeaux. « Ah non, par exemple !» dit Zoé en retirant tout de suite son nez. « Madame va être emportée! Quel chien de temps !» Madame n'entendait pas. La tête penchée, elle regardait la propriété au-dessous d'elle. Il y avait 7 ou 8 arpents enclos de murs. Alors, la vue du potager la prit tout entière. Elle se précipita, bouscula la femme de chambre dans l'escalier en bégayant. « C'est plein de choux! Oh, des choux gros comme ça! Et des salades, de l'oseille, des oignons, et de tout! Viens vite !» La pluie tombait plus fort. Elle ouvrit son ombrelle de soie blanche, courut dans les allées. « Madame va prendre du mal !» criait Zoé, restée tranquillement sous la marquise du perron. Mais madame voulait voir. À chaque nouvelle découverte, c'était des exclamations. « Zoé, des épinards! Viens donc! Oh, des artichauts, ils sont drôles! Ça fleurit donc, les artichauts? Tiens! Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas ça. Viens donc, Zoé, tu sais peut-être. » La femme de chambre ne bougeait pas. Il fallait vraiment que madame fût enragée. Maintenant, l'eau tombait à torrents. La petite ombrelle de soie blanche était déjà toute noire. Et elle ne couvrait pas madame, dont la jupe ruisselait. Cela ne la dérangeait guère. elle visitait sous l'averse le potager et le fruitier, s'arrêtant à chaque arbre, se penchant sur chaque planche de légumes. Puis, elle courut jeter un coup d'œil au fond du puits, souleva un châssis pour regarder ce qu'il y avait dessous, s'absorba dans la contemplation d'une énorme citrouille. Son besoin était de suivre toutes les allées, de prendre une possession immédiate de ces choses dont elle avait rêvé autrefois, quand elle traînait ses savates d'ouvrière sur le pavé de Paris. La pluie redoublait, elle ne la sentait pas, désolée seulement de ce que le jour tombait. Elle ne voyait plus clair, elle touchait avec les doigts pour se rendre compte. Tout à coup, dans le crépuscule, elle distingua des fraises. Alors, son enfance éclata. « Des fraises! Des fraises! Il y en a, je les sens! Zoé, une assiette! Viens cueillir des fraises !» Et Nana, qui s'était accroupie dans la boue, lâcha son ombrelle, recevant l'ondée. Elle cueillait des fraises, les mains trempées parmi les feuilles. Cependant, Zoé n'apportait pas d'assiette. Comme la jeune femme se relevait, elle fut prise de peur. Il lui avait semblé voir glisser une ombre. « Une bête !» cria-t-elle. Mais la stupeur la planta au milieu de l'allée. C'était un homme, et elle l'avait reconnu. « Comment ? C'est bébé ? Qu'est-ce que tu fais là, bébé ?»« Tiens, pardi, » répondit Georges, « je suis venue. » Elle restait étourdie. « Tu savais donc mon arrivée par le jardinier ? Oh, cet enfant ! Et il est trempé !»« Ah, je vais te dire, la pluie m'a pris en chemin, et puis je n'ai pas voulu remonter jusqu'à Gumières, et en traversant la Choue, je suis tombée dans un sacré trou d'eau. » Du coup, Nana oublia les fraises. Elle était toute tremblante et apitoyée. « Ce pauvre Zizi dans un trou d'eau !» Elle l'entraînait vers la maison. Elle parlait de faire un grand feu. « Tu sais, » murmura-t-il en l'arrêtant dans l'ombre, « je me cachais parce que j'avais peur d'être grondée comme à Paris quand je vais te voir sans être attendue. » Elle se mit à rire sans répondre et lui posa un baiser sur le front. Jusqu'à ce jour, elle l'avait traité en gamin, ne prenant pas ses déclarations au sérieux, s'amusant de lui comme d'un petit homme sans conséquence. Ce fut une affaire pour l'installer. Elle voulut absolument qu'on allumât le feu dans sa chambre. On serait mieux là. La vue de Georges n'avait pas surpris Zoé, habituée à toutes les rencontres. Mais le jardinier, qui montait le bois, resta interloqué en apercevant ce monsieur ruisselant d'eau, auquel il était certain de ne pas avoir ouvert la porte. On le renvoya, on n'avait plus besoin de lui. Une lampe éclairait la pièce, le feu jetait une grande flamme claire. « Jamais il ne séchera, il va s'enrhumer !» dit Nana en voyant Georges pris d'un frisson. « Et pas un pantalon d'homme !» Elle était sur le point de rappeler le jardinier lorsqu'elle eut une idée. Zoé, qui défaisait les malles dans le cabinet de toilette, apportait à madame du linge pour se changer, une chemise, des jupons, un peignoir. « Mais c'est parfait !» cria la jeune femme. « Zizi peut mettre tout ça, hein ? Tu n'es pas dégoûtée de moi. Quand tes vêtements seront secs, tu les reprendras, et tu t'en iras vite pour ne pas être grondée par ta maman. Dépêche-toi, je vais me changer aussi dans le cabinet. » Lorsque 10 minutes plus tard elle reparut en robe de chambre, elle joignit les mains de ravissement. « Oh, le mignon! Qu'il est gentil en petite femme !» Il avait simplement passé une grande chemise de nuit à entre-deux, un pantalon brodé et le peignoir, un long peignoir de batiste garni de dentelles. Là-dedans, il semblait une fille avec ses deux bras nus de jeune blond, avec ses cheveux fauves encore mouillés qui roulaient dans son cou. « C'est qu'il est aussi mince que moi !» dit Nana en le prenant par la taille. « Zoé, viens donc voir comme ça lui va. Hein ? C'est fait pour lui. À part le corsage qui est trop large. Il n'en a pas autant que moi, ce pauvre Zizi. Ah, bien sûr, ça me manque un peu !» murmura Georges, souriant. Tous trois s'égayèrent. Nana s'était mise à boutonner le peignoir du haut en bas pour qu'il fût décent. Elle le tournait comme une poupée, donnait des tapes, faisait bouffer la jupe par derrière. Et elle le questionnait, lui demandant s'il était bien, s'il avait chaud. Par exemple, oui, il était bien. Rien ne tenait plus chaud qu'une chemise de femme. S'il avait pu, il en aurait toujours porté. Il se roulait là-dedans, heureux de la finesse du linge, de ce vêtement lâche qui sentait bon et où il croyait retrouver un peu de la vie tiède de Nana. Cependant, Zoé venait de descendre les habits trempés à la cuisine afin de les faire sécher le plus vite possible devant un feu de sarment. Alors, Georges, allongé dans un fauteuil, osa faire un aveu. « Dis donc, tu ne manges pas ce soir ? Moi, je meurs de faim, je n'ai pas dîné. » Nana se fâcha. « En voilà une grosse bête, de filer de chez sa maman, le ventre vide, pour aller se flanquer dans un trou d'eau. » Mais elle aussi avait l'estomac en bas des talons. Bien sûr qu'il fallait manger. Seulement, on mangerait ce qu'on pourrait. Et on improvisa, sur un guéridon roulé devant le feu, le dîner le plus drôle. Zoé courut chez les jardiniers, qui avaient fait une soupe aux choux, en cas que madame ne dînât pas à Orléans avant de venir. Madame avait oublié de lui marquer sur sa lettre ce qu'il devait préparer. Heureusement, la cave était bien garnie. On eut donc une soupe aux choux avec un morceau de lard. Puis, en fouillant dans son sac, Nana trouva un tas de choses, des provisions qu'elle avait fourrées là par précaution. Un petit pâté de foie gras, un sac de bonbons, des oranges. Tous deux mangèrent comme des ogres, avec un appétit de 20 ans. En camarade qui ne se gênait pas. Nana appelait Georges « ma chère ». Ça lui semblait plus familier et plus tendre. Au dessert, pour ne pas déranger Zoé, ils vidèrent avec la même cuillère, chacun à son tour, un pot de confiture trouvé en haut d'une armoire. « Ah, ma chère !» dit Nana en repoussant le guéridon. « Il y a 10 ans que je n'ai dîné si bien !» Pourtant, il se faisait tard. Elle voulait renvoyer le petit, par crainte de lui attirer de mauvaises raisons. Lui répétait qu'il avait le temps. D'ailleurs, les vêtements séchaient mal. Zoé déclarait qu'il faudrait au moins 1 heure encore. Et comme elle dormait debout, fatiguée du voyage, ils l'envoyèrent se coucher. Alors, ils restèrent seuls dans la maison muette. Ce fut une soirée très douce. Le feu se mourait en braise, on étouffait un peu dans la grande chambre bleue, où Zoé avait fait le lit avant de monter. Nana, prise par la grosse chaleur, se leva pour ouvrir un instant la fenêtre. Mais elle poussa un léger cri. « Mon Dieu, que c'est beau! Regarde, ma chère !» Georges était venu. Et, comme si la barre d'appui lui eût paru trop courte, il prit Nana par la taille. Il appuya la tête à son épaule. Le temps avait brusquement changé. Un ciel pur se creusait, tandis qu'une lune ronde éclairait la campagne d'une nappe d'or. C'était une paix souveraine, un élargissement du vallon s'ouvrant sur l'immensité de la plaine, où les arbres faisaient des îlots d'ombre, dans le lac immobile des clartés. Et Nana s'attendrissait, se sentait redevenir petite. Pour sûr, elle avait rêvé des nuits pareilles, à une époque de sa vie qu'elle ne se rappelait plus. Tout ce qui lui arrivait depuis sa descente de wagon, cette campagne si grande, ces herbes qui sentaient fort, cette maison, ces légumes, tout ça la bouleversait, au point qu'elle croyait avoir quitté Paris depuis 20 ans. Son existence d'hier était loin. Elle éprouvait des choses qu'elle ne savait pas. Georges, cependant, lui mettait sur le cou de petits baisers câlins, ce qui augmentait son trouble. D'une main hésitante, elle le repoussait comme un enfant dont la tendresse fatigue, et elle répétait qu'il fallait partir. Lui ne disait pas non. Tout à l'heure, il partirait tout à l'heure. Mais un oiseau chanta, puis se tut. C'était un rouge-gorge, dans un sureau sous la fenêtre. « Attends !» murmura Georges.
La lampe lui fait peur, je vais l'éteindre. » Et quand il vint la reprendre à la taille, il ajouta « Nous la rallumerons dans un instant. » Alors, en écoutant le rouge-gorge, tandis que le petit se serrait contre elle, Nana se souvint. Oui, c'était dans des romances qu'elle avait vu tout ça. Autrefois, elle eût donné son cœur pour avoir la lune ainsi et des rouges-gorges et un petit homme plein d'amour. Mon Dieu, elle aurait pleuré tant ça lui paraissait bon et gentil. Bien sûr qu'elle était née pour vivre sage. Elle repoussait Georges qui s'enhardissait. « Non, laisse-moi, je ne veux pas. Ce serait très vilain à ton âge. Écoute, je resterai ta maman. » Des pudeurs lui venaient. Elle était toute rouge. Personne ne pouvait la voir pourtant. La chambre s'emplissait de nuit derrière eux, tandis que la campagne déroulait le silence et l'immobilité de sa solitude. Jamais elle n'avait eu une pareille honte. Peu à peu, elle se sentait sans force, malgré sa gêne et ses révoltes. Ce déguisement, cette chemise de femme et ce peignoir, la faisaient rire encore. C'était comme une amie qui la taquinait. « Oh, c'est mal !» balbutia-t-elle après un dernier effort. Et elle tomba en vierge dans les bras de cet enfant, en face de la belle nuit. La maison dormait. Le lendemain, au Fondettes, quand la cloche sonna le déjeuner, la table de la salle à manger n'était plus trop grande. Une première voiture avait amené ensemble Faucherie et Daguenet. Et derrière eux, débarqué du train suivant, venait d'arriver le comte de Vandœuvre. Georges descendit le dernier, un peu pâle, les yeux battus. Il répondait que ça allait beaucoup mieux, mais qu'il était encore étourdi par la violence de la crise. Madame Hugon, qui le regardait dans les yeux avec un sourire inquiet, ramenait ses cheveux mal peignés ce matin-là, pendant qu'il se reculait, comme gêné de cette caresse. À table, elle plaisanta affectueusement Vandœuvre, qu'elle disait attendre depuis 5 ans. « Enfin, vous voilà. Comment avez-vous fait ?» Vandœuvre le prit sur un ton plaisant. Il racontait qu'il avait perdu un argent fou la veille au cercle. Alors il était parti, avec l'idée de faire une fin en province. « Ma foi, oui, si vous me trouvez une héritière dans la contrée, il doit y avoir ici des femmes délicieuses. » La vieille dame remerciait également Daguenet et Faucherie d'avoir bien voulu accepter l'invitation de son fils, lorsqu'elle éprouva une joyeuse surprise en voyant entrer le marquis de Choirs, qu'une troisième voiture amenait. « Ah, ça !» s'écria-t-elle. « C'est donc un rendez-vous ce matin. Vous vous êtes donné le mot. Que se passe-t-il? Voilà des années que je n'ai pu vous réunir, et vous tombez tous à la fois. Oh, je ne me plains pas. » On ajouta un couvert. Faucherie se trouvait près de la comtesse Sabine, qui le surprenait par sa gaieté vive. Elle qui l'avait vue si languissante dans le salon sévère de la rue Miroménil. Daguenet, assis à la gauche d'Estelle, paraissait au contraire inquiet du voisinage de cette grande fille muette, dont les coudes pointus lui étaient désagréables. Muffat et Choirs avaient échangé un regard sournois. Cependant, Vandœuvre poussait la plaisanterie de son prochain mariage. « À propos de dame, finit par lui dire Madame Hugon, « j'ai une nouvelle voisine que vous devez connaître. » Et elle nomma Nana. Vandœuvre affecta le plus vif étonnement. « Comment ? La propriété de Nana est près d'ici ?» Faucherie et Daguenet également se récrièrent. Le marquis de Choirs mangeait un blanc de volaille sans paraître comprendre. Pas un des hommes n'avait eu un sourire. « Sans doute, reprit la vieille dame, et même cette personne est arrivée hier soir à la mignotte, comme je le disais. J'ai appris ça ce matin par le jardinier. » Du coup, ces messieurs ne purent cacher une très réelle surprise. Tous levèrent la tête. « Eh quoi ? Nana était arrivée ?
mais il ne l'attendait que le lendemain, il croyait la devancer.
Seul Georges resta les cils baissés, regardant son verre d'un air las.
Depuis le commencement du déjeuner, il semblait dormir, les yeux ouverts, vaguement souriant.
« Est-ce que tu souffres toujours, mon zizi ?»
lui demanda sa mère, dont le regard ne le quittait pas. Il tressaillit, il répondit en rougissant que ça allait tout à fait bien. Et il gardait sa mine noyée et gourmande encore de fille qui a trop dansé.
« Qu'as-tu donc là, au cou ?»
reprit Madame Hugon, effrayée.
« C'est tout rouge !»
Il se troubla et balbutia. Il ne savait pas, il n'avait rien au cou. Puis, remontant son col de chemise,
« Ah oui, c'est une bête qui m'a piqué !»
Le marquis de Choire avait jeté un coup d'œil oblique sur la petite rougeur. Muffa, lui aussi, regarda Georges. On achevait de déjeuner en réglant des projets d'excursion. Fauchery était de plus en plus remué par les rires de la comtesse Sabine. Comme il lui passait une assiette de fruits, leurs mains se touchèrent, et elle le regarda une seconde d'un regard si noir qu'il pensa de nouveau à cette confidence reçue un soir d'ivresse. Puis, elle n'était plus la même. Quelque chose s'accusait davantage en elle. Sa robe de foulard gris, molle à ses épaules, mettait un abandon dans son élégance fine et nerveuse. Au sortir de table, Daguenay resta en arrière avec Fauchery pour plaisanter crûment sur Estelle.
Un joli balai à coller dans les bras d'un homme.
Pourtant, il devint sérieux lorsque le journaliste lui eut dit le chiffre de la dot. 400 000 francs.
« Et la mère ?» demanda Fauchery.
« Hein ? Très chic !
Oh, celle-là tant qu'elle voudrait, mais pas moyen, mon bon. »«
Bah, est-ce qu'on sait ? Il faudrait voir. »
On ne devait pas sortir ce jour-là. La pluie tombait encore par averse. Georges s'était hâté de disparaître, enfermé à double tour dans sa chambre. Ces messieurs évitèrent de s'expliquer entre eux, tout en n'étant pas dupes des raisons qui les réunissaient. Vandeuvre, très maltraité par le jeu, avait eu réellement l'idée de se mettre au vert, et il comptait sur le voisinage d'une amie pour l'empêcher de trop s'ennuyer. Fauchery, profitant des vacances que lui donnait Rose, alors très occupée, se proposait de traiter d'une seconde chronique avec Nana, dans le cas où la campagne les attendrirait tous les deux. Daguenay, qui la boudait depuis Stener, songeait à renouer, à ramasser quelques douceurs, si l'occasion se présentait. Quant au marquis de Choire, il guettait son heure. Mais, parmi ses hommes suivant à la trace Vénus, mal débarbouillée de son rouge, Muffa était le plus ardent, le plus tourmenté par des sensations nouvelles de désir, de peur et de colère, qui se battaient dans son être bouleversé. Lui avait une promesse formelle. Nana l'attendait. Pourquoi donc était-elle partie 2 jours plus tôt? Il résolut de se rendre à la mignotte le soir même après le dîner. Le soir, comme le comte sortait du parc, Georges s'enfuit derrière lui. Il le laissa suivre la route de Gumière, traversa la Choue, tomba chez Nana, essoufflé, enragé, avec des larmes plein les yeux. Ah, il avait bien compris. Ce vieux qui était en route venait pour un rendez-vous. Nana, stupéfaite de cette scène de jalousie, toute remuée de voir comment tourner les choses, le prit dans ses bras, le consola du mieux qu'elle put. Mais non, il se trompait, elle n'attendait personne. Si le monsieur venait, ce n'était pas sa faute. Ce zizi, quelle grosse bête, de se causer tant de bile pour rien. Sur la tête de son enfant, elle n'aimait que son Georges. Et elle le baisait, et elle essuyait ses larmes.
« Écoute, tu vas voir que tout est pour toi, » reprit-elle quand il fut plus calme. « Stener est arrivé, il est là-haut. « Celui-là, mon chéri, tu sais que je ne puis pas le mettre à la porte. »«
Oui, je sais, je ne parle pas de celui-là, »
murmura le petit. « Eh bien, je l'ai collé dans la chambre du fond, en lui racontant que je suis malade. il défait sa malle. « Puisque personne ne t'a aperçu, monte vite te cacher dans ma chambre et attends-moi. » Georges lui sauta au cou. C'était donc vrai, elle l'aimait un peu. Alors, comme hier, ils éteindraient la lampe, ils resteraient dans le noir jusqu'au jour. Puis, à un coup de sonnette, il fila légèrement. En haut, dans la chambre, il enleva tout de suite ses souliers pour ne pas faire de bruit. Puis, il se cacha par terre, derrière un rideau, attendant d'un air sage. Nana reçut le comte Muffa, encore secouée, prise d'une certaine gêne. Elle lui avait promis, elle aurait même voulu tenir sa parole, parce que cet homme lui semblait sérieux. Mais en vérité, qui se serait douté des histoires de la veille? Ce voyage, cette maison qu'elle ne connaissait pas, ce petit qui arrivait tout mouillé, et comme ça lui avait paru bon, et comme ce serait gentil de continuer. Tant pis pour le monsieur. Depuis 3 mois, elle le faisait poser, jouant à la femme comme il faut, afin de l'allumer davantage. Eh bien, il poserait encore. Il s'en irait, si ça ne lui plaisait pas. Elle aurait plutôt tout lâché que de tromper Georges. Le comte s'était assis, de l'air cérémonieux d'un voisin de campagne, en visite. Ses mains seules avaient un tremblement. Dans cette nature sanguine, restée vierge, le désir, fouetté par la savante tactique de Nana, déterminait à la longue de terribles ravages. Cet homme si grave, ce chambellan qui traversait d'un pas digne les salons des Tuileries, mordait la nuit son traversin et sanglotait, exaspéré, évoquant toujours la même image sensuelle. Mais cette fois, il était résolu d'en finir. Le long de la route, dans la grande paix du crépuscule, il avait rêvé des brutalités. Et tout de suite, après les premières paroles, il voulut saisir Nana à deux mains. « Non, non, prenez garde !» dit-elle simplement sans se fâcher, avec un sourire. Il la rattrapa les dents serrées. Puis, comme elle se débattait, il fut grossier. Il lui rappela crûment qu'il venait coucher. Elle, toujours souriante, embarrassée pourtant, lui tenait les mains. Elle le tutoya, afin d'adoucir son refus. « Voyons, chérie, tiens-toi tranquille. Frais, je ne peux pas. Stenner est là-haut. » Mais il était fou. Jamais elle n'avait vu un homme dans un état pareil. La peur la prenait. Elle lui mit les doigts sur la bouche pour étouffer les cris qu'il laissait échapper. Et, baissant la voix, elle le suppliait de se taire, de la lâcher. Stenner descendait. C'était stupide à la fin. Quand Stenner entra, il entendit Nana, mollement allongée au fond d'un fauteuil, qui disait « Moi, j'adore la campagne. » Elle tourna la tête, s'interrompant. « Chérie, c'est monsieur le comte Muffa qui a vu de la lumière en se promenant et qui est entré nous souhaiter la bienvenue. » Les deux hommes se serrèrent la main. Muffa demeura un instant sans parler, la face dans l'ombre. Stenner paraissait maussade. On causa de Paris, les affaires ne marchaient pas. Il y avait eu à la bourse des abominations. Au bout d'un quart d'heure, Muffa prit congé. Et comme la jeune femme l'accompagnait, il demanda, sans l'obtenir, un rendez-vous pour la nuit suivante. Stenner, presque aussitôt, monta se coucher, en grognant contre les éternels bobos des filles. Enfin, les deux vieux étaient emballés. Lorsqu'elle put le rejoindre, Nana trouva Georges toujours bien sage derrière son rideau. La chambre était noire. Il l'avait fait tomber par terre, assise près de lui, et ils jouaient ensemble à se rouler, s'arrêtant, étouffant leur rire sous des baisers, lorsqu'ils donnaient contre un meuble un coup de leurs pieds nus. Au loin, sur la route de Gumières, le comte Muffa s'en allait lentement, son chapeau à la main, baignant sa tête brûlante dans la fraîcheur et le silence de la nuit.